Les voix de service magazine le 22 mars 2017. Ça va vite, hein? Le printemps est bien installé, même si aujourd'hui, on dirait que l'hiver prend de la place.
Là, c'est...
Oui, c'est assez froid. Avec
c'est,
le vent, là...
souvent aujourd'hui, là, c'est...
L'hiver en rappelle.
Oui. On appelle ça le printemps québécois.
Oui, mais le vrai printemps va vraiment s'installer. On ne peut pas croire qu'il va nous fuir comme ça, entre les doigts. En attendant, on a les doigts gelés, alors il faut mettre les gants ou les mitaines. Bonjour à vous, autour de la table, Isabelle Falardeau.
C'est moi.
Serge Bradet.
Bonjour, bonjour.
Daniel Lachance.
Bonjour.
Et on vous écoute. Présentez vos sujets, Isabelle.
Et moi, je vais vous parler de nourriture, comment mieux cuisiner pour économiser.
Et toujours puis, pratique.
Voilà. Et je vais vous parler de 10 traits de personnalité qui vous rendent aimable. Ah, alors, oui. On va voir si vous êtes aimable, mes chers amis.
On va faire un quiz avec vous, Isabelle. Serge.
Oui, toujours dans le Montréal 375 ans d'histoire du dimanche. Il y a deux ou trois semaines, j'ai parlé des grands incendies à Montréal. Et là, ce dimanche dernier, c'était concentré sur l'incendie du Parlement. Alors, c'est toute l'histoire du Canada aussi à ce moment-là, de la situation politique. Alors, je vais vous parler de ça. Et ensuite, dans une revue qui s'appelle « Merveilleuse revue, les cahiers, sciences et vie », on parlait des métiers de la femme au Moyen-Âge. Métiers exercés par les femmes au Moyen-Âge. Alors, c'est très, très intéressant. Je vais vous lire ça.
On remonte à loin, là.
Oui, dans les années 1300, 1200, 1300, 1400.
Parfait, merci. Daniel?
Je vais vous parler d'un compositeur québécois. Que le nom n'était peut-être pas très connu, mais on va voir qu'il a écrit des chansons qui sont très connues.
Vous ne le nommez pas pour l'instant?
Non.
D'accord. Il n'y en a pas question.
Oui, il faut garder le...
Oui, il faut garder notre auditeur et notre auditrice en haleine. Oui.
Et je vais vous parler aussi d'un autre qui est très connu. Je pense que ce n'est plus une nouvelle maintenant. Chuck Berry, qui est décédé samedi. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur M. Berry.
Il a eu une longue vie.
Une longue vie, et quand on dit que c'est presque lui qui a inventé le rock'n'roll, on peut presque dire aussi que sa vie a été assez rock'n'roll. On va voir d'où l'expression rock'n'roll vient.
Bon, on va vous écouter aussi avec beaucoup d'intérêt. Merci. Est-ce qu'on est aimable ou pas? Isabelle va nous le dire.
C'est ce qu'on va voir. Alors, 10 traits de personnalité qui vous rendent aimable. C'est un article du 15 mars 2017 que j'ai pris sur le site du journal Métro, mais qui est signé Philippe-Jean Poirier de 37e Avenue. Alors, c'est la firme anglaise de recrutement CV Library qui a sondé 1200 travailleurs pour déterminer les 10 traits de personnalité qui rendent une personne aimable au travail. Les voici. À 61%, on a répondu « une attitude positive ». Quoi de plus rébarbatif qu'un collègue qui cherche toujours la petite bête noire et qui ne voit que les écueils menaçant tout projet ou initiative? Alors, chers amis, je suis très intéressée par vos sujets aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de vous entendre.
Très aimable de ta part.
Ensuite, la facilité d'accès. À 40% des gens ont répondu ça. Donc, pour nouer des liens avec ses collègues, encore faut-il se laisser approcher. Mm-hmm. Comment se montrer invitant? En souriant, en adoptant une posture d'ouverture et en regardant ceux qui nous parlent dans les yeux.
Ça.
Ça paraît moins à la radio un petit peu. Ensuite, le sens de l'humour à 39%. Ça, c'est pas juste au bureau, hein. Je vous dirais dans le couple aussi, c'est très, très utile pour être aimable.
Même les blagues plates?
Il n'y a... Probablement, oui. Enfin, il n'y a pas besoin d'être le bout en train du département, mais savoir faire preuve d'un minimum d'autodérision est habituellement bien vu. Et je dirais pas seulement faire des blagues, mais rire les blagues des autres aussi.
Oui,
hein, les
être un bon public.
Et taquiner une personne qui nous a laissé en plan.
Oui, c'est ça. Accepter de se faire taquiner, ma chère Hélène.
Ah, Serge, qui n'arrête pas de me taquiner parce que je vous ai fait faux bond, mais c'était vraiment malgré
c'était
moi
pour
la semaine
une bonne
passée.
Ah,
oui,
oui,
j'étais en séance photo, cher Serge.
Et ensuite, à 31%, l'ouverture d'esprit, hein, les milieux de travail sont de plus en plus diversifiés et démontrer de la curiosité pour la culture et le mode de vie de ses collègues est une bonne façon d'établir une amitié. Comme par exemple, quel est le plat traditionnel que vous mangez sur la rive sud, vous? On n'est pas très diversifié autour de la table là, aujourd'hui, ouais. Mais je m'intéresse à votre culture quand même. Ensuite, l'honnêteté.
Il n'a pas répondu, Daniel.
Non,
il
n'a
pas
mais...
répondu. Est-ce qu'on mange sur la rive sud?
Non, mais il a fait preuve d'un bon sens de l'humour.
Oui, 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 c'est vrai.
Alors, c'est en faisant preuve d'honnêteté envers ses collègues et son patron, et ce, dans ses bons comme dans ses mauvais coups, qu'on peut bâtir cette essentielle confiance avec son groupe de travail. Moi, je vous avoue que je ne suis pas très bonne en... Je suis bonne pour dire quand vous êtes bon, mais donner des compliments...
Des critiques
négatives, ça, j'ai plus de mal. C'est un petit peu mon défaut.
Critiques constructives.
Ça veut dire que les commentaires que tu nous fais, c'est un bon coup, ça.
Je veux, ben, moi, je suis comme Francine Grimaldi. Je ne veux pas dire que j'ai aimé ça si je n'ai pas aimé ça, okay. Mais si je n'ai pas aimé ça, j'en parle pas.
Ah oui, d'accord. Mais quand elle n'a pas aimé ça, si on l'écoute avec beaucoup d'attention, on est capable de lire entre les lignes.
Non, c'est vrai qu'avec l'âge, elle a fini par développer une capacité. Peut-être que ça va m'arriver
on
aussi.
On finit par connaître notre Francine.
Alors, à 20 % la compassion. Dans un monde de travail qui est devenu des plus compétitifs, une personne qui fait preuve de compassion est un peu comme un vent de fraîcheur dans une organisation. Alors, je compatis beaucoup avec tout le temps que vous devez mettre pour arriver le matin, Daniel. Mm-hmm. Vous venez de loin, de votre lointaine rive sud.
Oui, il y a un décalage horaire en plus. Hein. Ben... J'ajuste à... tous les matins.
À quelle rive sud on parle?
J'ai aucune idée, moi. La rive sud, pour moi, je vais là, je me perds. Ah, il ne faut pas que je conduise sur la rive sud. La confiance à 19 %. Il n'y a rien de plus lassant qu'un collègue qu'on est constamment obligé de rassurer au sujet de son degré de compétence et de la qualité de son travail. Hein. Mm. Je ne suis pas sûre que ça va être très intéressant ce dont je vais vous parler aujourd'hui.
Les insécures, oui.
Peut-être, on va voir.
Mais c'est intéressant jusqu'à maintenant, Isabelle, je vous rassure.
Merci. Ensuite, à 8,5 % la patience. Une étude réalisée en 2007 par le département de psychologie de l'Université de Californie a montré que les gens patients génèrent moins d'émotions négatives et font preuve de plus de gratitude.
C'est vrai, ça. Moi, les impatients, pas capable.
Pas de patience
pas de temps
pour ça,
moi.
Alors, en avant-dernière, ben c'est pas en ordre là, du plus petit au plus grand, pas en avant-dernière position, mais en avant-dernière mention, l'enthousiasme à 16,5 % montrer de l'enthousiasme pour l'idée, le commentaire ou le projet d'un collègue est une façon de donner à ce dernier de la reconnaissance et de contribuer à son bien-être professionnel. Mm-hmm. Alors, je pense que vous avez bien une très bonne idée de nous parler de ce dont vous allez nous parler aujourd'hui, Serge, que j'ai déjà oublié. Et finalement, la motivation, hein, 18,8 %. Les gens veulent être inspirés. C'est pour ça qu'un travailleur qui a le don d'insuffler un sens à un projet et donc de jouer les bougies d'allumage est grandement apprécié de son entourage. Alors, je conclue en vous disant, let's go gang, on est capable!
Mais en autant que c'est fait avec beaucoup d'authenticité, ben sinon,
oui, bien sûr,
ça vaut rien. Merci, Isabelle.
Plaisir.
Beau, hein, cette musique, ça fait partie de la bande originale du film Intouchable. Serge Bradet, vous nous parlez d'un incendie.
Oui,
Pas l'incendie de Rio. Là.
Non, un incendie plus triste.
Oui, là, c'est grave.
Oui. Comme on l'oublie, c'est un article d'André Duchesne, donc dans la partie Montréal, 375 ans d'histoire, là, pour les 375 ans de Montréal. Mais on l'oublie souvent, Montréal a été durant cinq années la capitale du Canada, du Canada uni. C'était avant la Confédération.
Le bas et le haut.
Là, c'est ça, exactement, mm-hmm. Oui. Alors, l'article de 1844 à 1849, Montréal a été la capitale du Canada uni. Une époque trouble, et agitée, dont le triste aboutissement a été, le 25 avril 1849, l'incendie du Parlement, situé au marché Sainte-Anne, là où se trouve aujourd'hui la place Diouville. Cet incendie était le résultat d'une lutte sans merci entre élus progressistes, réformistes, et conservateurs, les Tories, autour de la responsabilité ministérielle, un principe politique destiné à donner beaucoup plus de pouvoir aux élus du peuple. En 1840, Londres crée le Canada uni, ou province du Canada, en adoptant l'acte d'union entre le Haut-Canada et le Bas-Canada, qui deviennent du coup le Canada Ouest et le Canada Est, donc l'Ontario et le Québec en gros, là, avec les provinces, ben, les provinces maritimes étaient incluses dans ça, Au départ, le Parlement est installé à Kingston, mais on décide de le déménager à Montréal en 1844 parce que Kingston était trop près de la frontière américaine et il y avait eu l'invasion de 1812 aussi, qui n'était pas très loin. Alors vulnérable en cas d'invasion. Le 24 juin 1845, le Parlement du Canada uni s'installe définitivement dans l'édifice rénové du marché Sainte-Anne qui desservait la population en produits d'alimentation. En 1847, après avoir repris le pouvoir, les réformistes caressent le projet de faire adopter le principe de responsabilité ministérielle. Le concept déplaît aux élus Tories, qui souhaitent conserver des liens étroits avec Londres. Mais il est accepté par Lord Elgin, récemment nommé gouverneur général du Canada uni. Au printemps de 1849, les réformistes adoptent aussi une loi accordant une compensation financière aux habitants du Canada Est pour les pertes subies à la suite des rébellions des Patriotes de 1837 et 1838. Pour les Tories, c'est le comble, c'est inacceptable. Pour eux, ce bill d'indemnité confirme la domination politique des Canadiens français. Lord Elgin reste sourd à leurs demandes. Quand même, c'est surprenant, le monsieur, on aurait pu penser qu'il était, mais il était assez progressiste pour l'époque. Lord Elgin reste sourd à leur demande de refuser de sanctionner la loi, ce qui est chose faite le 25 avril 1849, donc les compensations sont votées. Ce jour-là, à l'invitation du quotidien The Montreal Gazette, des centaines d'opposants se réunissent à la place d'armes. Certains historiens affirment que c'est au Champ de Mars, cependant. On ne s'entend pas sur ça. Et marchent en colère vers le Parlement. Tories et émeutiers lancent des pierres sur l'édifice, tentent d'y pénétrer et s'en prennent aux élus qui, eux, essaient évidemment de sortir du Parlement. Dans le brouhaha, un grave incendie éclate. Les flammes se propagent aux deux étages de l'édifice. Les quelques 30 000 livres et manuscrits de la bibliothèque sont réduits en cendres. Perte irrémédiable. D'autres événements troubles se déroulent dans les rues de Montréal les jours suivants. Les émeutiers prennent, entre autres, d'assaut la maison de Louis-Hippolyte Lafontaine. Mais malheureusement, ils sont repoussés. Ils prennent également les locaux du général Le Pilote, favorable au bill d'indemnité, et mettent à feu l'hôtel Cyrus, place Jacques-Cartier. Selon l'historien Martin Landry de Montréal en histoire, c'est un capitaine d'un corps de pompiers volontaires, Alfred Perry, qui serait l'incendiaire du Parlement. Il en a fait l'aveu dans une entrevue accordée 18 années plus tard au quotidien Montreal Daily Star. Au Champ de Mars, M. Perry, appela la foule à se diriger vers le Parlement, raconte M. Landry. Selon ses dires, il lance lui-même une brique sur une lampe à gaz, ce qui déclenche l'incendie qui embrasa le Parlement. À l'automne 1849, le Parlement déménage à Toronto, qui, avec Québec, deviendra en alternance capitale du Canada. Et c'est à la fin de 1857 que Londres annonce qu'Ottawa deviendra officiellement le siège du gouvernement, mais il faudra attendre jusqu'en 1866 pour qu'une première session parlementaire y ait lieu, le temps de construire évidemment les édifices qui ont accueilli le gouvernement. En 2013, des fouilles archéologiques entreprises sur le site de la place Diouville mènent à la découverte de restes calcinés de plusieurs livres de la bibliothèque incendiée, ainsi que d'autres artefacts témoins de la vie parlementaire du temps. Alors, les différents acteurs de ces événements, Lord Elgin, James Bruce de son nom d'origine, le 8e comte Delgin a été gouverneur du Canada uni de 1847 à 1854. Sensible aux réformistes, il appuiera la création d'un gouvernement responsable et tenu de rendre des comptes au peuple. Il meurt en 1863 à 52 ans. Louis-Hippolyte Lafontaine, Avocat et homme politique, il s'identifie comme l'homme des compromis durant les troubles de 1837-1838. Il est le premier ministre du Canada-Est durant les événements et co-dirige les réformistes avec Robert Baldwin. Il meurt en février 1864 à 56 ans. Robert Baldwin, deux fois premier ministre du Canada-Ouest, cet homme politique né à Toronto, partageait plusieurs idéaux avec Louis-Hippolyte Lafontaine, avec qui il dirigera le premier gouvernement responsable. Il meurt à 54 ans, le 9 décembre 1858. L'espérance de vie n'était pas très longue, hein? C'est début cinquantaine. James Moyer Ferris, journaliste et politicien, né en Écosse, il était l'éditeur de The Montreal Gazette au moment des événements. Arrêté au lendemain de l'incendie, il ne sera jamais poursuivi. Il sera élu à l'Assemblée législative de la province du Canada en 1855 et il meurt en 1870. Alors voilà, c'était l'histoire de l'incendie du Parlement de Montréal.
Et c'est à cause de ces maudits Tories qu'on n'a pas le Parlement à Montréal aujourd'hui.
Mais non, c'est la faute d'Alfred. C'est lui qui a mis le feu.
Oui.
Mais c'est Londres qui a décidé que c'était à Ottawa.
Oui. Et la petite histoire, j'avais vu ça, moi, dans un documentaire, c'est que, là, je ne peux pas penser que c'est pas vrai, c'était vraiment exagéré, mais la reine Victoria aurait mis son doigt et dit « ça va être là ».
Ah, OK.
Je pense que c'est un peu... Non, il y a du
zéro. Mais ça va peut-être considérer son doigt quand même.
Oui, oui.
Je connais celle-là.
Mais cela dit, le Parlement à Ottawa est magnifique.
Ah oui, oui. Oui. Mais ce serait... je ne sais pas si on peut s'imaginer comment aurait évolué le Montréal en étant resté capitale du pays.
Ben oui, ça aurait été complètement...
différent.
Puis justement, de se poser la question, est-ce que ce serait resté la capitale si ça n'avait pas brûlé? Mm-hmm. Parce que là, on n'a pas eu le choix de le construire ailleurs.
Puis est-ce que ça serait resté bilingue à Montréal?
Oui, la capitale était ici.
Mais c'était, d'après l'article, c'était vraiment décidé que Montréal était la capitale.
Mm-hmm.
Et c'est à cause de l'incendie qu'ils sont partis, parce qu'ils ont dit ça va recommencer.
Mais c'est curieux, il me semble qu'on n'apprend pas ça dans nos cours d'histoire.
Non.
C'est important. On l'oublie, j'imagine.
Moi, je n'ai jamais appris ça à l'école, moi. J'ai pourtant fait mes cours de 55, 56 à 70, là. J'ai toujours beaucoup aimé l'histoire, puis l'histoire, c'était vraiment...
J'ai toujours une moyenne au-dessus de 90 en histoire, puis je me rappelle pas de ça.
Ah non. Bien, c'est une des grandes faiblesses ici au Québec. Je ne sais pas dans les autres provinces, mais au Québec, notre histoire, c'est comme...
Mais c'est complètement changé. Hein. Je sais qu'on empiète sur votre temps, Daniel.
Ouais, c'est correct.
Mais justement, mon fils est en histoire. C'était en secondaire 3, on n'avait pas d'histoire, nous. Que c'était secondaire 4, nous, qu'on avait de l'histoire dans mon vieux temps. Mais ils apprennent vraiment beaucoup, beaucoup sur l'histoire du Québec. Là, ça fait depuis le début de l'année, pratiquement. Donc, ils ont vu toutes les guerres, les conflits avec les Amérindiens, les alliances. Et là, ils sont dans la Révolution américaine.
C'est quoi le titre du cours? Est-ce que c'est histoire?
Ça s'appelle histoire.
OK.
Oui.
Ah, ben, tant mieux, c'est rassurant. Bon,
oui, non, mais parce qu'après, parce qu'ils ont changé ça au primaire, maintenant, ils n'ont plus d'histoire, il n'y a plus de cours d'histoire ou de géo. Ça s'appelle.
Monde contemporain? Non.
Non. C'est... Oh, merde, j'ai déjà oublié. Jean-Sébastien, vous n'avez pas encore d'enfant à l'école, hein? Non.
Dans mon temps, les cours d'histoire, c'était sciences humaines.
Non, ça s'appelle. Ça va me revenir d'ici la fin, puis je vais vous le dire tout à l'heure. C'est très drôle. Nous, il a fallu qu'on pose la question au prof, c'est quoi ce cours-là? Parce qu'on n'avait aucune idée. Alors, voilà.
Tout ça pour une gonzesse qui m'avait tu par l'adresse et le fossé. J'ai pris mon couteau et clac dans le dos. Il est mort comme le juge l'a dit. J'ai eu 20 ans. Mais il aimait trop
C'est la chanson, évidemment, de Jean-Pierre Ferland, « Quand on aime, on a toujours 20 ans », interprétée ici par Alex Nevsky.
Voilà. Et c'est tiré de l'album « Michel Robidoux, enfin sorti de l'ombre ». Et cet article-là, je l'ai pris dans La Presse Plus, édition du 20 mars. Un article qui a été écrit par Alain de Repentigny. J'ai été chanceux, lance Michel Robidoux au beau milieu d'une conversation passionnante avec ce musicien qui a été au cœur de la création de deux albums fondateurs de la chanson moderne québécoise, le Charlebois Forestier, communément appelé Lindbergh, dont il était le guitariste, et le Jaune de Jean-Pierre Ferland, dont il a composé les musiques. Cette chanson-là, effectivement, venait de l'album Jaune de oui. Jean-Pierre Ferland. En anglais, on dit « being there ». Évidemment, si tu ne sais pas quoi faire avec ton instrument, c'est bien beau d'être là au bon moment, mais il ne se passera pas grand-chose, concède celui qui a notamment été le compositeur attitré de Passepartout pendant deux saisons et que Leonard Cohen a recruté pour l'aider à terminer son album « I'm Your Man ». Il avait joué sur « I'm Your Man » et je me souviens pas de l'autre titre, là, ça va me revenir.
Ouais.
Cet homme discret, né dans une famille d'artistes, lance aujourd'hui, à 73 ans, un album bien à lui, Robidoux Premier, le fruit d'un heureux concours de circonstances. Il y a quelques années, à l'occasion d'un lancement de disque, Michel Robidoux a fait la connaissance de Pierre Lapointe, qui lui a parlé de sa passion de toujours pour la chanson « Le chat du café des artistes », dont il avait composé la musique. Par la suite, Lapointe a soumis à Robidoux le texte des Enfants du Diable, qui n'a finalement été mis en musique qu'au bout de 10 mois, tellement les deux hommes avaient du plaisir à jaser de tout et de rien et à rigoler plutôt que de travailler chaque fois qu'ils se rencontraient. Il y a un peu plus de 2 ans, quand il a vendu les droits de ses compositions, Robidoux a appelé son ami Pierre pour lui dire qu'il était prêt à enregistrer son propre album. De Paris, Lapointe a donné un coup de fil au directeur artistique du label Audiogramme qui a aussitôt appelé Robidoux pour lui fixer un rendez-vous. Quand Pierre Lapointe prend le téléphone, il se passe de quoi? C'est comme le parrain, dit Robidoux en riant. Robidoux Premier est vraiment un album pas comme les autres. On y entend des chansons archi-connues dont il a composé les musiques. « Le chat du café des artistes », deux fois plutôt qu'une, une version par Pierre Lapointe et puis une par Ariane Moffat, ainsi que « Le petit roi » et « Je rêve à Rio », mais aussi des choses inédites comme « Le dernier chemin », « Un adieu à son ami Jean-Guy Moreau », ou encore « Petit ange blond », la seule chanson qui n'est pas de Michel Robidoux, mais de ses parents, qui la lui chantait quand il avait 3 ans. Plus encore, celui qui donne son nom à l'album ne joue carrément pas sur 4 des 12 chansons. C'est son choix. En plus des Catherine Major, Pierre Flynn, Alex Nevsky, qu'on a entendu, Bia et autres Daniel Bélanger, dont il compare les cadeaux à des feux d'artifice, il a fait appel à la chanteuse de jazz Marie-Noëlle Claveau, qui a consacré un album entier à son père Fernand. Michel Robidoux a bien hâte de voir quel accueil sera réservé à son premier album. À la lumière des premières réactions, j'ai l'impression que le grand public va être intéressé. Je touche du bois, dit celui qui, avec les quelques 300 chansons qu'il a composées au fil des ans, aurait l'embarras du choix s'il était question d'un deuxième album. Et puis, qui sait, ce Robidoux premier pourrait donner lieu à un concert-événement pas ordinaire au Francofolie ou au Festival d'été de Québec. C'est sûr qu'il en est question, répond-il. C'est sur la table, les Franco. Et puis, je pourrais avoir d'autres invités comme Charlebois ou Jean-Pierre Ferland. On a le droit de faire de la pensée positive. Surtout quand, contre toute attente, on lance son premier album à 63 ans.
Ah, je me demandais quel âge il avait.
73 ans, pardon.
73
ans? Oui, oui, oui. Oh. Donc, il parle aussi de quelques chansons qui sont sur son album. Exemple, « Je rêve à Rio ». Il dit ici, ma première vraie composition musicale à 19 ans. On a connu beaucoup la version de Robert Charlebois. Oui. Lui, au début, c'était une bossa nova qu'il voulait faire. Exactement le tempo qu'il a fait avec Bia sur son album Robidoux premier. Avec Robert Charlebois, ça a pris vraiment une tournure de samba. Ça reste toujours sud-américain, mais lui, il la voyait plus comme la version qu'il a faite avec Bia. Et aussi au sujet de la chanson Le Petit Roi. Il dit, les arrangeurs de l'album Jaune, qui étaient Buddy Fasano et Art Phillips, ont fait une job du tonnerre, mais je voulais entendre Le Petit Roi comme je l'avais composé et je l'ai chanté à Pierre Flynn comme on l'a fait en 1970. Non seulement le réalisateur Philippe Brault a gardé l'intro un peu vocale d'origine, mais dans la reprise entre les couplets, il l'a fait jouer par une trompette et c'est vachement Beatles.
Un grand compositeur. Hein?
Grand compositeur. Et puis, dans le fond, juste une petite parenthèse pour terminer aussi. Il parle de Robert Charlebois quand il l'a rencontré. Michel Robidoux a commencé à travailler avec Robert Charlebois en 1967. Et c'est lui qui a initié le jeune chansonnier. Parce que si vous vous rappelez, Robert Charlebois, au début, c'était un petit chansonnier.
Chantait la
classique.
Boulée.
Oui, oui, oui. Puis, et on dit, c'est lui qui l'a initié à la guitare électrique. Je lui avais refilé une Gibson électrique acoustique que j'avais. Et c'est son fils, Jérôme Charlebois, qui l'a maintenant.
Qui ressemble tellement à son père.
Oui, beaucoup, il pourrait pas le réunir.
Robidoux premier, peut-être qu'il va avoir un Robidoux deuxième.
Peut-être,
troisième.
On lui souhaite.
On lui souhaite du succès. En tout cas, ça donne le goût de découvrir cet album-là. On a déjà entendu...
beaucoup de versions intéressantes.
Cette reprise d'Alex Nevsky. Mais Daniel Bélanger, qu'est-ce qu'il reprend? Est-ce qu'on
Je me souviens pas, j'ai pas la liste devant
moi.
Bon,
c'était pas une question piège. Des vérifications. Merci beaucoup, Daniel. Et en quelques secondes, Isabelle, le cours d'histoire s'appelle...
Univers social.
Oui.
Ça s'appelle comme ça maintenant au primaire.
Bon. Merci beaucoup pour l'information. On se retrouve après la pause avec l'émission Les Voix de service magazine. À tout de suite.
Jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. Caught the rolling off the rider sitting down at a rhythm review. I roll over Beethoven, they're rocking in two by two. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up just a trifle further, then reel and rock with. Run another, roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. Beethoven, tell Tchaikovsky the news. You know she wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop.
Retour en 1956 avec ce grand hit de Chuck Berry, Roll Over Beethoven.
Qui a été repris par plusieurs artistes. Hein. La plupart du monde connaît sa version des Beatles, qui était sur un de leurs premiers albums. Il y a eu une version aussi de Electric Light Orchestra.
En tout cas, ça nous met de bonne humeur, ça nous fait danser.
Oui, effectivement, la plupart des chansons de Chuck Berry, c'était des choses qui rendent de bonne humeur. Et d'ailleurs, j'en parlerai plus tard.
Mais je pense que Sylvain Cormier disait que cette chanson-là, ça équivalait à... le titre équivalait à « Stance toi, mon oncle ». Oh non, c'est René Aumirois que j'entends
ouais,
parler
de cette
chanson.
Oui, c'est un peu ça. Tu sais, c'est comme, regarde, là, la génération qui écoute encore Beethoven, « Tassez-vous, on arrive avec
ah,
la
oui. On aime Beethoven quand même, mais enfin, oui. Chuck Berry, voilà. On vous écoute, Daniel.
Chuck Berry, le chanteur et guitariste américain Chuck Berry est décédé. Le rock'n'roll a perdu samedi l'un de ses pères fondateurs. Le guitariste et chanteur américain Chuck Berry, décédé à l'âge de 90 ans, pouvait s'enorgueillir d'avoir changé l'histoire de la musique. Charles Edward Anderson Berry, senior, a été trouvé inanimé par les secouristes et son décès a été prononcé à 13h26 local, a précisé la police sur son compte Facebook. C'est avec tristesse que la police du comté de St. Charles confirme la mort de Charles Edward Anderson Berry, mieux connu comme le légendaire musicien Chuck Berry, écrit la police dans ce qui est sans doute le premier hommage à la légende qui vient de s'éteindre. La famille a demandé à ce que l'on respecte son intimité pendant le deuil. Les causes du décès n'ont pas été révélées par la police. Chuck Berry laisse une œuvre immense de Maybelline à Roll Over Beethoven et Johnny B. Goode qui a influencé plusieurs générations de musiciens. Auteur d'un grand nombre de classiques du rock, il a composé des dizaines de tubes des années 50, 60 et 70, parmi lesquels Sweet Little Sixteen, School Days ou My Ding-a-ling. En passant, Sweet Little Sixteen, c'est un des premiers qu'on avait déjà parlé de plagiat hein, en musique, mm-hmm. puis de procès pour plagiat. Sweet Little Sixteen a été un des premiers procès de plagiat et c'est Chuck Berry qui l'a intenté contre les Beach Boys pour leur chanson Surfin' USA.
Ah.
Et si vous écoutez les deux chansons, c'est vraiment... C'est sans très blague. Proche du plagiat.
Est-ce qu'il a gagné son procès?
Il a gagné, je pense, d'avoir des droits sur la chanson. Et il a gagné aussi, je pense, le droit d'avoir son nom. À partir de 1966, son nom apparaît comme un des auteurs de cette chanson-là. Puis d'ailleurs, c'est Brian Wilson, je pense, des Beach Boys qui avait écrit sa version. Puis lui, il disait que c'était comme un hommage à Chuck Berry.
Ben
c'est
un de leurs influences.
Puis c'est vrai dans un sens. On l'a copié parce qu'on aime ce qu'il fait. Mais bon, bref.
Chuck l'a pas vu comme ça.
Je pense que c'était quelqu'un qui était assez opportuniste aussi. Quand il voyait l'occasion de dire, il allait le chercher. Il a inventé le rock'n'roll, il a inventé les poursuites pour le plagiat aussi. Surnommé Crazy Legs pour son jeu de jambes sans égale, Chuck Berry est né le 18 octobre 1926 à Saint-Louis, au Missouri. D'ailleurs, on parle souvent de « Doc Walk ». Qui avait été imité souvent aussi, d'ailleurs, comme dans le film Back to the Future, je pense.
Doc Walk?
Oui, il faisait son Doc Walk quand il chantait le Chuck. Il faisait une version de Johnny B. Goode dans le film. Devenu coiffeur, marié et père de famille, il arrondit ses fins de mois en jouant de la guitare. Oui, absolument.
C'est quoi le rapport?
Il a fait pas mal de choses.
Ouais.
Jouait de la guitare dans les clubs lorsqu'il est remarqué par le bluesman Muddy Waters. En 1955, il enregistre sa première chanson, Maybelline, qui devient un tube phénoménal et marque pour lui le début de 10 années de succès. Chuck Berry enregistre ensuite 30 Days, No Money Down et Roll Over Beethoven avant d'enchaîner les tubes School Days et Rock'n'Roll Music en 1957. D'ailleurs, les Beatles avaient repris Rock'n'Roll Music aussi.
Les Beatles aimaient beaucoup Chuck Berry.
Ouais, au début, c'était vraiment un de leurs idoles. Et d'ailleurs, les Beatles, ils n'ont pas fait beaucoup de reprises d'autres artistes, mais ils en ont fait au moins 2 ou 3 de Chuck Berry et 2 de Carl Perkins dans les débuts. Il a aussi fait Carol, Johnny B. Goode, Little Queenie, Memphis, Tennessee et Back in the USA en 1959. D'ailleurs, les Beatles, quand ils ont fait Back in the USSR, c'était un peu un hommage à Back in the USA.
Ah, oui.
C'était pas du plagiat, ça, c'était vraiment un
hommage.
Ouais, c'était un clin d'œil. À la fin des années 50, son succès est gigantesque, ses chansons sont partout et il parvient avec des thèmes simples et universels exaltant les préoccupations des adolescents, la fête, le flirt, les voitures, l'école, à devenir le héros d'une jeunesse blanche fascinée par le rock. Ça, c'était assez exceptionnel à l'époque. Un noir qui... qui était populaire auprès des populations blanches comme mm-hmm. ça. C'est surtout ceux qui aimaient le blues, mais le rock'n'roll, c'était nouveau. Sa carrière est ensuite freinée par une condamnation en 1961 et un séjour de 2 ans en prison pour une affaire de mœurs. Façon polie de dire qu'il avait été arrêté pour proxénétisme.
Oh.
Oui, qu'elle disait qu'il avait eu une vie rock'n'roll.
Ça, c'était une crapule notoire.
Ou c'était pas un enfant de cœur. C'était pas un enfant de cœur. À sa sortie, il traverse une période difficile, tandis que ses standards commencent à être repris par des groupes européens comme les Beatles ou les Rolling Stones. Chuck Berry se renoue avec le succès au début des années 70 avec My Ding-a-ling en 1972, ce qui le replace au sommet des palmarès. Il multiplie alors les tournées, monnayant très cher ses apparitions. Défrayant à nouveau occasionnellement la chronique par ses démêlés avec la justice, le chanteur se retire ensuite peu à peu, continuant cependant à donner des concerts de plus en plus espacés. Et en passant, j'avais lu aussi dans un autre article ailleurs, quand il faisait des tournées, à partir des années 70, plus, je pense, il partait toujours tout seul, puis il demandait au promoteur de lui fournir des musiciens sur place. Endroit à l'autre, c'était tout le temps des musiciens différents, et il n'y avait pas de répétition, il n'y avait pas de partition. C'était comme, vous devez tous connaître les chansons de Chuck Berry. J'arrive sur la scène et soyez prêts.
Mais je pense que les musiciens de Jerry Boulet, de Offenbach, avaient joué avec Chuck Berry.
Il y a plein de monde qui ont joué avec lui, puis apparemment, c'était très stressant parce qu'il n'était pas très agréable sur la scène.
En plus,
s'il y avait une petite erreur, une petite chose au travail, ça
Mais en même temps, comment refuser de jouer avec
effectivement,
cette légende?
Il profitait beaucoup de ça. Le jour de son 90e anniversaire, ça, j'en avais parlé cet été, il avait créé la surprise en annonçant la sortie d'un nouvel album, son premier depuis près de 40 ans. Sobrement intitulé Chuck, l'album a été enregistré dans des studios près de Saint-Louis et devait sortir dans le courant de cette année. C'est pas fait encore. Si Chuck Berry est peut-être remonté au ciel, son légendaire Johnny B. Goode l'y a précédé. C'est le seul morceau de musique rock gravé sur le disque d'or, emporté par les sondes Voyager 1 et 2, avec d'autres trésors de l'humanité, dans l'espoir qu'il puisse être décrypté par des extraterrestres. C'est un petit peu flyé,
quand même.
Je ne sais pas, des extraterrestres, s'ils ont un lecteur de CD, ou je ne sais pas comment ils vont pouvoir écouter ça, en tout cas. Elles volent aujourd'hui, toutes deux, en dehors du système solaire. Il y a eu plusieurs réactions au décès de Chuck Berry, bien entendu, et plusieurs artistes qui ont... je pourrais vous lire plein de commentaires, mais un qui m'avait frappé, c'était celui de Keith Richards des Rolling Stones, qui avait dit, avant même le décès de Chuck Berry, « Si on devait donner un autre nom au rock'n'roll, on devrait appeler ça Chuck Berry. »
Ah, ça veut tout dire.
Ça veut tout dire. Ça souligne tout. Et en passant, je dois juste revenir sur tantôt, on parlait de Michel Robidoux, qui avait travaillé avec Leonard Cohen sur 2 chansons, I'm Your Man et...
L'autre titre, Everybody Knows.
Everybody Knows, effectivement, qui était sur le même album. Alors,
merci.
Voilà.
They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas and around the Frisco Bay. Just got to have about a half a million, a famed autograph. Her wallet filled with pictures, she gets them one by one. Becomes so excited, watch her look at her run, boy. C'est vrai hein, que ça ressemble aux Beach Boys.
Mm-hmm. Curieusement, oui. Mm-hmm.
Chanson de Chuck Berry et qui s'appelle comment cette chanson?
Sweet Little Sixteen.
D'accord, merci. Qui ressemble à Surfin' USA.
Étrangement, oui.
Et là, on s'en va au Moyen-Âge. Mm-hmm. La féminisation des métiers au Moyen-Âge, Serge.
Mm-hmm. Oui, absolument. C'est dans l'excellente revue Les Cahiers Sciences et Vie. C'est un spécial Moyen-Âge, ainsi vivaient les femmes, de novembre 2016. Je vous donne quelques titres d'articles. Il y a une soixantaine de pages de consacrées à ce sujet-là. Alors, voyez-vous, on parle de la condition féminine de l'Antiquité au Moyen-Âge. Ensuite, vous avez une section où on parle de la domination masculine. Dans ça, il y a le regard des hommes sur la condition féminine, un corps infâme. L'homme voyait le corps de la femme comme un corps infâme.
Ah oui?
Seuls et sans défense, leur vie...
J'ai rien dit, moi.
Pas un corps de femme, un corps infâme.
Infâme,
et bien...
oui. Seuls et sans défense, leur vie ne tient qu'à un fil et dans les filets du mariage. Et ensuite, on parle de la résistance féminine à ça. Alors, vous avez Aliénor d'Aquitaine, la rebelle, une reine qui a eu une vie très évoluée pour l'époque.
Rock'n'roll.
La Chuck Berry du Moyen Âge.
Oui, à peu près. Seigneur, R-E-S au féminin, en leur domaine, parce que beaucoup de femmes administraient les seigneuries lorsque leur mari était en croisade ou à la guerre. En ville, les métisses féministes, c'est l'article que je vais vous lire, au champ, un souffle de liberté, l'émancipation par la prière, parce que si la femme ne se mariait pas, l'autre option, c'était le couvent. Oui, alors c'est ça. Alors, vous voyez, c'est assez élaboré comme article. Alors, en ville, les métiers se féminisent. Commerce, textile, domesticité, artisanat. Les femmes se voient offrir un large éventail d'activités dont certaines réclament force et endurance. Le monde des corporations leur ouvre ses portes tout en leur posant quelques limites. C'est un article de Julie Pilorguet. Alors, des orfèvresses et des peintresses, des chaudronnières et des coutelières qui s'occupaient des couteaux, des barbières et des transporteuses de mortier. Le Moyen Âge se montre beaucoup plus ouvert au travail féminin qu'on ne pourrait le penser. Comme le souligne l'historien Didier Lette, on entend encore aujourd'hui des sociologues ou historiens contemporanéistes nous dire que finalement, les femmes ont attendu que les hommes soient au front en 14-18 à la Grande Guerre pour commencer à travailler. Il faut quand même dire fortement que tout cela est une absurdité. Cette surprenante diversité d'activités se retrouve surtout en ville. L'essor urbain des 12e et 13e siècles fait des villes médiévales un gisement d'opportunités pour les plus dynamiques. Reste à savoir si la présence des femmes sur le marché du travail est tolérée ou officiellement admise. La porte leur est-elle grande ouverte ou simplement et momentanément entrebâillée? Les femmes font-elles partie intégrante du système, c'est-à-dire à cette époque du monde des corporations? Si certaines d'entre elles réussissent à tirer leur épingle du jeu, c'est aussi en raison d'une donnée plutôt méconnue. En ville, elles sont souvent plus nombreuses que les hommes.
Ah!
Oui. D'après les travaux de plusieurs démographes, le ratio homme-femme dans les sociétés urbaines du nord de l'Europe aurait été même largement favorable à ces dernières. Les études menées par Judith Bennett et Marianne Kowalewski donne pour le sud de l'Angleterre, au 15e siècle, donc dans les années 1400, une moyenne de 100 femmes pour 75 hommes seulement.
Oh, quand même!
Oui. Elle constitue donc une main-d'œuvre importante dans la ville médiévale qu'il convient de redécouvrir. Leurs activités offrent un spectre assez large, du plus attendu au plus surprenant. On retrouve bien entendu la plupart des femmes dans des métiers relevant de ce que l'on considère alors comme leur domaine de compétences. C'est-à-dire l'intérieur de la maison, à savoir l'entretien de la maison, des enfants, du jardin et du petit bétail. La domesticité fut aussi un grand vivier d'emploi pour les femmes à la fin du Moyen Âge, à mesure que de riches bourgeois s'établissaient dans des belles maisons à pans de bois. Dans les villes du nord de l'Angleterre, à partir des listes d'impôts, on estime que de 20 à 30 de la population féminine âgée de plus de 14 ans travaillait comme domestique pour ces maisons, pour ces bourgeois-là. Les compétences reconnues à la main-d'œuvre féminine s'étendaient également au secteur de l'alimentation et du petit commerce. Les femmes apparaissent alors dans les sources comme boulangères, fruitières ou revendresses des quatre saisons. Ces occupations sont bien représentées dans la littérature et l'iconographie du temps. Ainsi, François Villon mit en poésie ce qu'on appelle les « dits de Paris », dans lesquelles de nombreuses femmes parcourent la ville en criant, un panier à la main, la valeur de leurs marchandises. Un autre métier est traditionnellement dévolu aux femmes, le textile. Or, ce secteur connaît une mutation d'ampleur à la fin du Moyen Âge, notamment dans les villes du nord de l'Europe. Si la majorité des fileuses est souvent en situation précaire, l'évolution des techniques de fabrication du métier à tisser permet à certaines de voir leurs compétences reconnues et d'accéder à un meilleur statut. Au Moyen Âge, le travail est extrêmement codifié. La reconnaissance du statut économique passe par l'insertion dans les grandes structures collectives, les corporations et les confréries. Le travail est organisé de manière très stricte à la fin du Moyen Âge et on ne peut pas exercer un travail sans appartenir à un métier avec un grand M. Il faut prêter serment devant la confrérie, explique l'historienne Sophie Cassagne-Brouquet. De nombreux métiers accueillent des femmes et les font même parvenir aux plus hauts échelons de la hiérarchie corporative. Elles apparaissent dans les statuts comme maîtresses et ont le droit de prendre des apprentis. Quelques villes iront même jusqu'à la création de corporations exclusivement féminines, comme à Rouen, Paris et Cologne. Mais les femmes travaillent bien au-delà du périmètre qui leur est habituellement attribué par les mentalités de l'époque. Certains noms de métiers attestent leur présence. On trouve des peintresses, des orfèvresses, des enlumineresses. Les noms des professions existent déjà au féminin au Moyen Âge. Hein? C'est disparu après ça.
Oui, c'est ça, j'allais dire, ça n'existe plus maintenant.
C'est vers la Renaissance, c'est vers la Renaissance que c'est parti.
C'était plus évolué au Moyen-Âge.
Oui. Et en terminant, parce que je vois que mon temps file, plus étonnant en regard des préjugés masculins, médiévaux actuels, on trouve des femmes dans des activités nécessitant force et endurance. On connaît ainsi de nombreux exemples de femmes participant aux grandes entreprises de travaux urbains, telles que la construction de nouveaux remparts ou l'édification de bâtiments religieux. Elles sont alors employées à la journée pour le transport du mortier, la couverture des toits ou le travail du verre.
Oui,
alors c'était pas seulement pour des choses plus légères, mais aussi pour des choses... quelque chose qui est un peu... dommage, c'est que la gynécologie constitue un domaine réservé aux femmes. Et avec les sages-femmes,
dans ce sens-là.
Avant de pouvoir exercer ces fonctions, il fallait suivre un long enseignement au sein de la faculté de médecine. Or, l'accès à l'université ne leur était pas autorisé.
Ah, non.
Et les femmes ont donc perdu dans le Moyen Âge, cet avantage-là qu'elles avaient, cette spécificité-là, c'est les hommes qui sont devenus médecins.
Il y avait une ouverture, mais jusqu'à un certain point.
Oui. Et ça s'est fermé à la Renaissance, apparemment.
Absolument.
Oui.
On ne parle pas de conciliation travail-famille.
Non.
Alors, Serge, rappelez-nous le nom de la revue.
Oui, c'est Les Cahiers Sciences et Vie. De novembre 2016, Moyen Âge, ainsi vivaient les femmes.
Merci beaucoup. Isabelle, des conseils pour mieux cuisiner tout en économisant.
Exactement. Mieux cuisiner et jeter moins pour économiser, c'est le titre de l'article d'Emmanuel Grill dans le Journal de Montréal du 17 mars. Il n'y a pas qu'au supermarché qu'on peut réduire sa facture d'épicerie. Éliminer le gaspillage alimentaire et cuisiner de façon raisonnée peut aussi vous faire économiser gros. Les Canadiens jetteraient pour 14,6 milliards de dollars de nourriture chaque année, ce qui représente environ 400 dollars par personne. À l'échelle d'une famille avec deux enfants, c'est 1 600 dollars qui partent directement à la poubelle. Alors, c'est pas des petites sommes de rien, là. Une somme rondelette que l'on préférerait garder dans ses poches. Mais il n'y a pas que le gaspillage. La façon dont nous cuisinons a aussi un impact direct sur la facture d'épicerie. Qui n'a pas déjà dû jeter des légumes oubliés dans le tiroir de son réfrigérateur?
Ouais.
Sans parler de ce contenant de crème à cuisson dont la date de péremption est passée depuis longtemps. Et là, je ne sais pas si vous faites comme mon mari ou plusieurs personnes que je connaisse. Alors, la date est passée, mais c'est peut-être encore bon.
Ah ouais.
Donc, on attend à peu près deux mois. Puis là, maintenant qu'on est sûr que c'est tout bon, on le jette.
OK.
Qu'on ne veut pas jeter quand c'est encore...
Ça, c'est comme des contenants Tupperware. Tu achètes ça pour mettre tes restants dedans en attendant de les jeter.
Oui, c'est ça. Exactement. Alors, le mieux, c'est d'éviter de faire ça. Alors, comment faire ça? Eh bien, une gestion efficace est essentielle pour éviter le gaspillage. On vérifie régulièrement le contenu de ses armoires et de son frigo. Donc, développer le réflexe de regarder ce qu'on a dans le frigo, là, de faire la rotation des contenants dans le frigo pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et sans oublier le congélateur. Hein, on a tendance à acheter plus de nourriture que nécessaire parce qu'on se dit qu'on pourra toujours la congeler. Mais bien souvent, on finit par l'oublier dans le congélateur et on devra l'acheter lorsqu'on la découvrira 5 ans plus tard.
Oh!
Mais ça arrive pour vrai.
Ouais.
Alors, pour éviter ça, on fait rouler les stocks régulièrement et on pense à identifier et dater les contenants placés au congélateur. Idéalement, on tient aussi un inventaire de tout ce qui y entre et en sort. Mais de nos jours, il y a plein de petites applications qui vous permettent de gérer vraiment ce que vous avez dans votre frigo. Vous pouvez entrer à mesure. Évidemment, ça demande une discipline, hein, de mettre à mesure, d'enlever les choses à mesure qu'on les enlève du frigo.
Oui, mais ceux qui laissent des choses 5 ans dans le congélateur, je ne suis pas sûre que ce soit
disciplinés pour utiliser
ces applications-là. Non, c'est ça. Mais petit à petit,
on commence un petit geste à la fois et puis à la longue, peut-être qu'on peut finir par tenir un bon inventaire et ça nous fait économiser de l'argent. C'est comme ça, c'est ça qu'il faut nous motiver.
Oui, garder en tête.
Doit nous motiver. Alors, pensez-y à deux fois avant de jeter des légumes défraîchis ou des fruits flétris. De nombreuses recettes permettent en effet d'utiliser les aliments un peu moches, comme en potage, en purée, en compote, en smoothie, en tarte, etc. Mm-hmm. Plusieurs sites Internet et livres de recettes proposent aussi des façons d'apprêter les parties oubliées, comme les plures, les fans de radis ou de carottes, etc. Par exemple, il y a le livre de Daniel Vézina qui est sorti dernièrement, « La cuisine réfléchie ». Il donne, entre autres, une recette de bouillon de légumes avec uniquement des plures de légumes.
Ouais. Ah, je serais curieuse de...
On ramasse nos plures au fur et à mesure, on les met dans un contenant, puis quand c'est... On ne le met pas dans le fond du frigo. Quand il est plein, on fait notre bouillon.
Des plures de pommes de terre, des plures...
De pommes de terre, de carottes. Évidemment, ça implique qu'il faut bien qu'on brosse nos légumes avant de les éplucher,
ouais,
parce qu'on ne veut pas avoir de la terre dans notre bouillon. Mais oui, effectivement... Ensuite, pour les fruits et légumes hors saison, mieux vaut les acheter surgelés. Non seulement ils coûteront moins cher que les frais, mais ils pourront aussi être utilisés au fur et à mesure selon la quantité désirée. Enfin, rappelez-vous que la viande peut souvent être remplacée par des protéines végétales comme le tofu ou les légumineuses qui se conservent dans l'armoire, donc qui durent plus longtemps que la viande, dans nos recettes. Alors, votre porte-monnaie et votre santé vous remercieront parce que les légumineuses, c'est aussi moins cher que la viande. Moi, je suis allergique aux légumineuses, malheureusement, mais pour ceux qui ne le sont pas, c'est une bonne alternative. Alors, en conclusion, des conseils, consultez les organismes communautaires de votre quartier. Ils proposent souvent des ateliers de cuisine anti-gaspillage, des cuisines collectives ou des groupes d'achat d'aliments. Alors, vous pouvez vous réunir une fois par mois, un dimanche, puis là, faire une grosse quantité de nourriture en gang. On apporte nos contenants. Après ça, ben, on les met au congélateur. On
met la date dessus.
Ça peut faire une belle activité.
La mention « meilleur avant » est un indicateur de fraîcheur de l'aliment et pas nécessairement sa date de péremption. Alors, on vérifie avant de jeter.
Votre mari est au courant de ça.
Conservez vos aliments secs comme la farine, le sucre, les légumineuses, etc. dans des bocaux transparents. C'est plus pratique pour savoir s'il est temps d'en racheter. Comme ça, on ne rachètera pas pour rien quelque chose qu'on a encore dans le placard. Et en conclusion de son article, Mme Grill nous donne des sites intéressants. Le site de Recyc Québec... Il y a une section apparemment pour réduire à la source le gaspillage alimentaire. Là, je ne vous donnerai pas l'adresse, c'est très, très long. Il y a aussi le site du Jour de la Terre. Si vous allez dans la section trucs et astuces à vos frigos. Et en dernier, un site que je découvre qui s'appelle Sauve ta bouffe. Donc, sauve, S-A-U-V-E, ta, bouffe, B-O-U-F-F-E.org. sauvetabouffe.org. Et là, ben, vous allez vraiment découvrir tout plein de trucs sur la conservation. Par exemple, comment conserver l'aubergine? Est-ce qu'on peut la congeler? Si oui, comment on doit faire? On nous donne même une recette de soupe à l'aubergine pour faire changement du baba ganoush et de l'aubergine grillée. Et de la ratatouille. Mais la ratatouille, par exemple, se congèle. Si vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant. Alors, et aussi, sur ce site-là, il y a une petite section, ça s'appelle « Mange gardien ». C'est une application que vous pouvez télécharger, mais vous pouvez aussi le faire sur le web. C'est des gens qui prennent des photos avant, après, donc de vieux radis tout rabougris qu'il y avait dans le frigo. Donc ça, c'est le avant. Puis le après, mais c'est quelle recette on a réussi à faire pour sauver cet aliment.
Ah, intéressant.
Puis vraiment, le site sauvetabouffe.org, plein d'informations super intéressantes à trouver là-dessus.
On n'a plus de prétexte, on n'a plus de raison de gaspiller, plus d'excuses.
Non, c'est ça. Ben, à part, c'est ça, c'est sûr, la conciliation travail-famille... Et le temps qui nous manque.
On n'a plus d'excuses, mais on n'a plus de temps.
Non, c'est ça.
Malheureusement, non.
Alors,
c'est vrai.
Bon appétit, tout le monde.
Il ne faut pas être paresseux.
Ah,
faut prendre
ça.
Le temps de regarder, de réfléchir. Merci, Isabelle. Serge, il fait beau dans le métro.
Dites à votre maître que je lui répondrai par la bouche de mes canons. Ça vous dit quelque chose?
Oui, mais je ne me souviens pas c'est qui.
C'est Frontenac?
Oui, ben oui.
Tu avais répondu ça à l'amiral Phillips qui a siégé à Québec, oui. Militaire, donc la station Frontenac, militaire, gouverneur de la Nouvelle-France de 1672 à 1682 et de 1689 à 1698. Personnage controversé, Frontenac donne une impulsion décisive à la création d'un empire français en Amérique et s'affirme comme un rempart efficace contre les attaques des Iroquois et des colonies anglaises. Son attitude héroïque face aux troupes de l'amiral Philippe lors de la bataille de Québec en 1690 le fait entrer dans la légende. Alors, inauguré en 1966, nombre de passagers en 2016, 2 539 138 personnes.
Qui sont passées par la station
Frontenac? Oui, et le plus funeste accident de travail pendant la construction du métro est survenu ici, 11 septembre 64, peut-être déclenché par un effondrement de roc. Des explosifs ont sauté et tué 3 ouvriers.
Ah, oh, c'est triste.
11 septembre, une autre date triste.
Ouais. Ben oui.
Merci beaucoup, Serge Bradet. Merci aussi à Isabelle Falardeau ainsi qu'à Daniel Lachance. Je vous souhaite une belle journée.
Merci beaucoup.
Un beau mercredi. On se retrouve la semaine prochaine, j'espère
dans
bien.
Dans 3 semaines,
d'accord. Alors, à dans 3 semaines, Daniel. Oui. Bon printemps.